Revenons d'abord sur ce climat social dont on parlait. Alors bien sûr, il y a ce qui s'est passé au Mans, mais c'est peut-être plus large que cela. Jean-Pierre Mercier, est-ce qu'il faut aujourd'hui casser pour se faire entendre dans notre pays ?
Non, je pense pas. Ce que je vois, ce qu'on constate, c'est quand les grandes entreprises cassent les emplois, quand les grandes entreprises ferment les usines, ferment les entreprises, cassent les emplois, cassent des vies, cassent des conditions de vie. Évidemment, ça génère des mobilisations, ça génère de la colère, du mécontentement. Mais à Lutte Ouvrière, on milite au contraire pour que les travailleurs se fassent entendre avec leur nombre, avec leur mobilisation dans les entreprises.
Mais beaucoup de gilets jaunes que l'on a rencontrés lors des manifestations nous rappellent que c'est quand les violences ont commencé à apparaître, avec des scènes que l'on a tous en tête, que le gouvernement a fini par céder à une partie de leur demande. Donc est-ce que finalement ça ne leur donne pas raison à ceux qui sont les manifestants les plus radicaux ?
Je ne crois pas. Quand Emmanuel Macron a fait ses premières concessions au mois de décembre, c'était d'abord parce que le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement populaire, soutenu par 80% de la population selon les sondages, et aussi parce qu'il a réussi à reculer sans faire payer les grands capitalistes, sans faire payer ces grands bourgeois, ces grandes entreprises, ces grands actionnaires. Et là, c'est évident que c'est beaucoup plus facile de reculer pour le chef de l'État quand il faut prendre dans la poche de l'argent public pour par exemple faire semblant d'augmenter le SMIC. Mais encore une fois, se faire entendre, faire reculer le gouvernement, les travailleurs ont des armes extrêmement efficaces parce qu'ils sont au cœur du système, ils sont dans les entreprises.
Armes efficaces, on a vu que des mobilisations traditionnelles, je pense aux lois travail, ne portaient pas forcément.
Et parce qu'on ne les a pas encore vues à la vraie échelle qu'il faudrait, c'est-à-dire des dizaines de millions de personnes, de travailleurs qui défilent et qui occupent les entreprises.
Des dizaines de millions de travailleurs dans la rue.
Mais c'est ça la solution.
La violence n'est pas une solution. Les rapports dans une démocratie doivent se réguler, se régler par le dialogue, par le respect, par la tolérance. C'est la France, c'est ça la République. Il y a un profond sentiment de déshumanisation dans la société.
Est-ce que ça peut entraîner de la violence ?
C'est précisément ce que je vous dis. Vous avez un arc de radicalité multiple aujourd'hui, de refus du progrès, de refus de l'avenir, de peur de l'avenir, auquel le pouvoir actuel et les partis politiques ne répondent pas. Je crois que nous avons aujourd'hui, en tant que, pour moi, homme de gauche, homme de la gauche démocratique, nous avons à réinvestir l'idée de progrès. Oui. Nous avons à réhumaniser le progrès pour trouver une société harmonieuse et juste. Et c'est précisément là où aujourd'hui le président de la République n'y est pas,
Jean-Pierre Mercier,
où il est attendu et où nous ne voyons pas les réponses.
J'ai entendu des gilets jaunes dire, il y a deux week-ends maintenant devant le Fouquet's, on casse le Fouquet's, qu'est-ce que c'est face à la casse sociale du gouvernement ? C'est ça l'argumentaire qu'on entend. Et comme pour, pas justifier, mais faire comprendre la violence.
Écoutez, la France c'est quoi ? C'est 6,5 millions de chômeurs. 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est des SDF, un nombre de SDF qui explose, c'est des licenciements à tour de bras, et de l'autre côté de la société, à l'autre pôle de la société, c'est une toute petite catégorie de bourgeois qui s'engraissent et qui s'enrichissent sur le dos de l'ensemble de la population. Comment voulez-vous, dans une société aussi inégalitaire, basée sur l'exploitation, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un dialogue serein, on va manifester pacifiquement, etc. Bien sûr qu'il y a des violences. Moi, je milite pas pour brûler le Fouquet's, parce que je pense que c'est stérile. Par contre, je milite, oui, pour que l'ensemble des travailleurs, j'en appelle à leur conscience, qu'ils prennent conscience qu'ils ont des intérêts spécifiques à défendre dans cette société. Et face au chômage, face à la baisse du pouvoir d'achat, face à la dégradation de nos conditions de vie, il y a une solution, c'est s'attaquer à ceux qui dirigent réellement la société, c'est les Bernard Arnault. Bernard Arnault, par exemple, c'est qui ? C'est un smicard qui a gagné en 2018 le SMIC toutes les 20 secondes. Le SMIC toutes les 20 secondes. Bon, quand vous gagnez, vous, 1100 euros parce que vous avez la chance d'avoir un boulot extrêmement pénible et que vous gagnez que le SMIC, comment voulez-vous, et que vous n'arrivez pas à faire vivre votre famille à la fin du mois, comment voulez-vous ne pas être en colère ? Bien sûr qu'il va y avoir il y a une colère dans ce pays qui n'est pas prête de se terminer, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, je peux vous assurer que oui, et il faut qu'il y ait de plus en plus de manifestations et que le monde du travail prenne conscience que lui, il a une place incontournable dans la société, c'est lui qui fabrique les richesses, c'est lui qui doit se mobiliser pour défendre ses intérêts.
Pour ma part, il y a une responsabilité et une faute de la part du pouvoir, du président et du gouvernement. C'est une panne et une faute de réponse concrète immédiate et aussi une panne d'espérance.
Nous avons oui,
est-ce que, en
mis
revanche,
en place
la traduction,
une politique qui vise...
Est-ce que la traduction
raison,
sociale vers les violences, Lauriane Rossi,
qui sont sous le seuil de pauvreté.
Est-ce que des
nous
traductions
avons mis en place un plan pauvreté visant justement à répondre à ces injustices. Un plan hôpital, parce que nous avons récupéré des hôpitaux dans un état lamentable. Et je pourrais égrener bon nombre de réformes sur ces sujets-là. Parlons du numérique. Un plan couverture numérique
vous
pour permettre à tous...
Vous voulez supprimer 120 000 fonctionnaires et vous voulez allonger le départ de l'âge de la retraite à 65 ans.
Cette crise, elle répond à quoi? À trois décennies d'inertie et d'inaction. Et vous-même, vous étiez responsabilité, cher monsieur, et vous n'avez pas non plus répondu à ces attentes. Elle explose aujourd'hui, il faut y répondre. Mais
parlons justement,
on est tous responsables.
De ce rapport choc sur le temps de travail des fonctionnaires. D'après l'inspection générale des finances, beaucoup de fonctionnaires travaillent moins que le seuil légal des 35 heures par semaine, document remis le mois dernier au ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ça tombe à pic, ce rapport, quand l'État s'apprête à faire une réforme de la fonction publique. Est-ce que c'est du fonctionnaire bashing selon vous, Jean-Pierre Mercier ?
Bien sûr. Et là, on est dans une caricature, exactement la même caricature que les gouvernements précédents, le gouvernement soi-disant de gauche de Hollande, mais y compris le gouvernement de Sarkozy. C'est,
mais quelle caricature on essaie... Vous contestez ces chiffres ?
La vraie caricature, vous venez de la faire.
Bien sûr.
Vous venez de faire une grosse caricature
bien sûr
à confondre tout le monde. Tu es désolé.
Bien sûr que je les conteste.
En même temps, Jean-Pierre Mercier.
Et c'est évidemment toujours cette même politique de vouloir diviser les salariés du public contre les salariés du privé, de monter les uns contre les autres, et c'est très facile de trouver. Bah oui, on va taper sur les fonctionnaires parce que c'est la voilà, c'est les grosses idées réactionnaires. C'est tout comme quand
mais
on
est-ce qu'il n'y a
quand...
pas aussi des abus ou des davantages qui ne se justifient plus. Une semaine de congé en plus au ministère de la culture,
je ne
par
pense
exemple.
Pas. Moi, je pense pas. Je pense réellement que derrière il y a une réelle politique de la part du gouvernement comme de ceux des précédents de vouloir supprimer des postes de fonctionnaires.
Ah bah ça, c'est-à-dire, il y a une intention, oui, de supprimer le nombre des effectifs.
De donner l'exemple, c'est-à-dire que l'État va donner l'exemple vis-à-vis des grands patrons du privé. Bah nous, l'État, on va vouloir supprimer 120 000 fonctionnaires. Vous pensez que dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans tous les services publics, il y a trop de personnes.
Alors les bien enseignants
que,
et,
bien sûr
et,
que ça craque
et les hôpitaux
mais même les services
sont
publics,
exemptés de
même
cette,
les services
ces chiffres.
Des communes, des départements, ça craque de partout. C'est une évidence et c'est des services publics qui sont... où nous, travailleurs, chômeurs, retraités, on en a besoin de ces services parce que c'est ce qui nous permet de vivre dans notre quotidien.
Julien Oudoul.
Comme ce principe selon lequel les fonctionnaires reçoivent un jour de congé supplémentaire lorsqu'ils posent 5 jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril. Est-ce que c'est un avantage qui se justifie encore? Et est-ce que c'est pareil dans le privé, Jean-Pierre Mercier?
C'est exactement pareil dans le privé parce que c'est le code du travail. Voilà, donc c'est l'exemple typique où on va pointer un espèce de privilège pour les fonctionnaires, alors que c'est un droit à la fois pour les salariés du service public et les salariés du privé. Bien sûr que les congés, c'est fait pour être posés sur la période estivale. La période estivale, je vous l'apprends peut-être, ça va du 1er avril au 31 octobre, selon le Code du travail. Et quand votre employeur vous oblige d'une manière ou d'une autre à poser vos vacances sur la période hivernale, vous oblige.
Oui, soyons précis.
Quand ce n'est pas volontaire de votre part, il est en droit, il y a une compensation, c'est-à-dire il vous donne
c'est
une journée.
C'est le code du travail.
Et bien sûr, c'est le code du travail.
C'est pas un privilège accordé.
C'est aucunement un privilège. Mais ça, ça fait partie du bashing fonctionnaire, c'est-à-dire sur le fait qu'on veut absolument cibler, stigmatiser une certaine population, une certaine catégorie de salariés. Quand on voit le travail que fournissent les salariés du service public qui sont incontournables au niveau du quotidien des travailleurs, des chômeurs et des retraités. Oui, quand l'État demande de supprimer 120 000, quand il a cet objectif de supprimer 120 000 fonctionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire 120 000 personnes qui vont... Il y a 120 000 emplois qui vont disparaître. Est-ce que c'est ça, lutter contre le chômage? Au contraire, c'est aller encore plus enfoncer
Eduardo,
la société dans le chômage.
Avançons un peu dans notre débat. Nous sommes à 2 mois environ des élections européennes. Un bureau exécutif de la République En Marche se tient au siège du parti. Objectif, Bastien Auger, vous êtes sur place. Il y a un adversaire désigné. C'est faire tomber le Rassemblement national.
Que dit-il le candidat que vous êtes aux élections européennes pour Lutte ouvrière? C'est difficile d'exister face à ce duel-là?
Non, écoutez, pendant des années, on nous a fait croire que la ligne de démarcation, la ligne de frontière, c'était entre la gauche et la droite. Voilà.
Oui, on nous dit aujourd'hui que ça n'existe plus.
Alors voilà, donc maintenant, la nouvelle ligne de frontière, ça serait entre les pro-européens et puis les anti-européens, donc entre Macron et puis Le Pen. Écoutez, les intérêts des travailleurs, c'est vraiment pas là du tout qui se situe. Nous, on se présente, Lutte Ouvrière, on va présenter 79 candidats, des travailleuses, des travailleurs, justement pour faire entendre ce camp des travailleurs face au grand capital, parce qu'on est convaincu que la situation est extrêmement catastrophique et que l'on soit dans l'Europe ou en dehors de l'Europe, de toute façon, ça sera les travailleurs qui paieront d'une manière ou d'une autre.
Votre liste, elle est évaluée à 1%, hein, même s'il faut toujours être prudent, surtout à 2 mois du scrutin. Mais pourquoi, justement, vos arguments ne pèsent pas plus dans ce contexte de colère sociale?
Bah écoutez, on démarre la campagne, déjà d'une part, et puis on organise un grand meeting vendredi soir à la grande salle de la Mutualité. Nathalie Arthaud et moi-même, on va parler, on va développer notre programme. On se présente justement dans ces élections européennes pour donner la possibilité au monde du travail d'exprimer leurs intérêts face à ces grands capitalistes qui sont en train de nous bouffer, qui sont en train de nous ravager notre vie et de nous ravager nos conditions de travail et nos conditions de vie. Il faut absolument que dans ces élections européennes, en dehors de ce grand classique Macron-Le Pen, puisque maintenant c'est les deux qui vont se disputer la première place.
C'est totalement artificiel que veut monter le président de la République. Ça sert à la fois le Rassemblement National.
Le socialiste a fait exactement la même chose avec Mitterrand.
Vous participez de cette confusion des esprits.
Vous m'impressionnez pas du tout.
Vous m'impressionnez pas non plus.
Mais moi je cherche pas à vous impressionner.
Vous faites de la confusion.
C'est juste la différence.
Et ça marche pas. Je suis désolé.
Macron est ministre de l'économie.
Ah bah c'est bien une question.
D'avoir accepté notre débat qui, vous voyez, continue.